journal des sciences.
Et pour commencer, Google a annoncé en début de semaine que son intelligence artificielle AutoML a développé une autre intelligence artificielle plus performante que celle entraînée par des êtres humains,
Zoé. Oui, puisque Google avait annoncé triomphalement il y a quelques mois déjà sur le blog de sa branche de recherche appliquée, Google Search, le lancement d'une intelligence artificielle, donc baptisée AutoML, chargée d'en créer d'autres et surtout de les entraîner grâce à la technique dite d'apprentissage par renforcement, c'est le fameux machine learning. AutoML qui a donc donné des sens, on l'a pris en début de semaine, à une autre IA baptisée NASNet, dont la mission est de pouvoir reconnaître en temps réel, par le biais de la vidéo, toute une multitude d'objets qui vont des voitures à des personnes, à de la signalisation routière, à des sacs à dos, etc. Les performances de NASNet, et c'est ça qui est intéressant, sont pour le moment meilleures que celles de toutes les autres intelligences artificielles entraînées par des scientifiques, des êtres humains. J'ai demandé à Jean-Jacques Eudin, chercheur en intelligence artificielle et directeur de l'Institut de l'Internet et du Multimédia, ce qu'il pensait de cette annonce.
C'est à la fois nouveau et pas nouveau. Quand on est en face d'une application, on a toujours l'impression que l'IA est magique parce que ça apprend et ça va aboutir à la solution. Mais en fait, non, il y a des experts autour dont l'expérience pratique va permettre, dans la complexité des solutions possibles pour bâtir une architecture, souvent par itération d'ailleurs, et puis d'obtenir une architecture qui va avoir des bonnes performances. L'idée d'AutoML, eh bien, c'est d'utiliser un système artificiel, une intelligence artificielle, en l'occurrence, il utilise un réseau de neurones, pour effectuer ce travail, d'où le nom d'ailleurs auto-machine learning. Hein. L'ensemble de ces idées, elles préexistaient avant, hein, le fait d'utiliser, par exemple, des systèmes d'apprentissage par renforcement, mais il y a d'autres, il cite d'ailleurs, hein, d'autres travaux qui utilisent des algorithmes génétiques, donc une autre approche pour essayer de construire un système de façon automatique. Ce que ça va permettre, c'est d'accélérer encore une fois les expérimentations, parce que jusqu'à récemment encore, créer une architecture de réseau de neurones profonds, par exemple, pour une application donnée, elle était unique pour cette application. Là, ce que les travaux de Google permettent d'envisager, c'est de la réutilisation possible, hein, d'une application sur l'autre, de ce qui a fonctionné correctement dans d'autres applications.
Voilà, et selon Jean-Jacques Eudin, hein, si Google a réussi à obtenir de tels résultats, c'est notamment grâce à sa maîtrise des données.
Oui, et d'ailleurs Google est très libéral sur ses recherches en la matière, hein, et présente d'ailleurs toujours en libre accès dans ses articles le modèle de l'architecture neuronale, en l'occurrence de NASNet. L'enjeu stratégique, évidemment, il n'est pas là. Alors, est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère où les IA pourront se produire elles-mêmes, se multiplier, sans plus jamais avoir recours à la main de l'homme? Évidemment non, répond très fermement Benjamin Bayard, le cofondateur de la Quadrature du Net, qui réfute d'ailleurs dans ce cas le terme d'intelligence artificielle, même si pour lui, de telles avancées chez Google posent évidemment d'autres questions.
Google a produit une intelligence artificielle, c'est-à-dire un outil d'apprentissage statistique qui est capable de faire l'entraînement d'autres intelligences artificielles et de les entraîner du coup par milliers, par centaines de milliers, sur des millions d'itérations d'apprentissage. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est probablement techniquement extrêmement intéressant, mais surtout, on n'a pas déplacé les problèmes fondamentaux. Le problème fondamental, par exemple, il réside dans la masse des données qu'on présente au programme pendant sa phase d'apprentissage. On veut entraîner un programme à reconnaître des visages. Si on ne lui présente que des visages d'hommes blancs, quand on va lui présenter un visage de femme, ou un visage noir, ou un visage asiatique, il va être perdu parce qu'il n'en a pas vu. Le biais statistique, il apparaît dans la masse de données qu'on présente. Le deuxième grand biais dans les masses de données, c'est la façon dont on les constitue. L'exemple type, c'est ce qu'on voit apparaître sur certains sites pour que vous prouviez que vous n'êtes pas un robot. On vous présente 16 images, il faut que vous preniez toutes celles où il y a un panneau de signalisation. À quoi ça sert? Ça permet de fabriquer des bases de données d'images qui permettront d'entraîner les intelligences artificielles à reconnaître les panneaux de signalisation. Le fondement de l'intelligence artificielle, c'est donc d'extraire une information pertinente d'une intelligence humaine, puis de faire dessus des analyses statistiques poussées pour essayer de reproduire ça le moins mal possible. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans.
En bref, la Terre pourrait d'ici 2100 se réchauffer 15% de plus que la pire des prévisions du GIEC, Zoé.
Les climatologues de l'Institut Carnegie de l'Université d'Oxford en Californie, de Stanford pardon, en Californie, qui publient cette semaine dans la revue Nature une étude dans laquelle ils indiquent que les prévisions les plus pessimistes du GIEC sont en vérité les plus probables selon eux, puisque l'étude, leur étude, introduit dans les modèles de prédiction existants des données liées à l'observation par satellite de l'énergie solaire absorbée ou renvoyée par la Terre, étude qui conclut que le réchauffement le plus probable est d'environ 0,5 degrés Celsius, plus important que ce que suggère le modèle brut du GIEC.
Nous savons qui parmi les animaux vivants est notre plus vieil ancêtre. C'est nous descendons tous de l'éponge.
Et tout à fait, l'éponge de mer. Les chercheurs de l'université de Bristol ont recouru à des techniques statistiques de pointe, Posterior Predictive Analysis, c'est le nom de ce modèle, pour tester la validité des modèles sur l'évolution des organismes couramment utilisés en phylogénétique pour étudier l'évolution des premiers animaux. Et donc, dans une étude publiée dans Current Biology, ils expliquent que les meilleurs modèles favorisent les éponges de mer pour être à la base de l'arbre généalogique de tous les animaux de la Terre et non les cténophores, comme le pensaient certains chercheurs. C'était l'autre alternative possible.
Deuxième sujet cette semaine, des chercheurs de l'INSERM ont réussi avec l'université d'Harvard à créer des objets en 3D d'un niveau de sophistication jamais obtenu puisque ces objets sont créés au niveau nanoscopique, Zoé.
Et ce, grâce aux quatre bases de l'ADN A, T, C et G. En 2012 déjà, l'université d'Harvard avait développé une technologie pour créer des objets à l'échelle nanoscopique capables de s'auto-assembler, de se replier à la manière des briques de Lego. D'ailleurs, Lego, la marque Lego, a un copyright sur cette technique. Gaëtan Bello, c'est un chercheur français à l'INSERM. Il est le co-auteur de l'étude publiée cette semaine dans Nature. Et il explique comment lui et son équipe ont considérablement développé cette technique et surtout sa complexité dans le but d'obtenir des objets capables d'opérer à l'échelle de la cellule humaine.
L'objectif du domaine, c'est de faire des outils à l'échelle du nanomètre. Donc dans l'ADN, il y a quatre unités, il y a quatre bases, A, G, C et T. Donc on peut l'imaginer que c'est une molécule d'ADN, c'est un peu comme un collier de perles avec ses quatre couleurs. Et donc ce code de couleurs forme une seule brique. Et on peut programmer ces briques pour trouver des partenaires. Jusqu'en 2012, on était capable de faire des nanostructures avec certaines des fonctions. Mais l'objectif, nous, c'est d'augmenter la diversité des briques de Lego pour faire des objets plus complexes. C'est comme si on prend un jeu de Lego. On a un baril de Lego au début. En 2012, on avait 1000 briques. Mais aujourd'hui, on arrive, avec cette nouvelle méthode, à faire des barils de Lego de 30 000 briques. La première étude utilisait des briques d'ADN qui faisaient 32 bases. Nous, dans ce nouveau design, on a ajusté des programmes qui permettent de concevoir ces nanostructures pour pouvoir designer des séquences d'ADN qui font 52 bases. Avec 52 bases, on peut augmenter la diversité de séquences et donc on peut augmenter les possibilités d'assembler des briques entre elles.
En bref, le premier bébé américain issu d'une greffe d'utérus est né.
Ce bébé né à Dallas d'une mère à qui on avait greffé l'utérus d'une infirmière de 36 ans est bien issu des gamètes de ses parents. Il arrive 3 ans après la toute première naissance issue d'une transplantation d'utérus. C'était en Suède, elle avait eu lieu en 2014. Et c'est la même médecin qui a opéré dans les deux cas. Il y a eu 7 transplantations d'utérus et 4 naissances de ce type qui ont déjà eu lieu. Cette 5e naissance confirme donc les bons résultats de cette procédure.
Une équipe de chercheurs français parvient à créer l'équivalent d'un trou de verre.
Ces chercheurs de l'Institut PP Prime de Poitiers ont matérialisé l'équivalent hydrodynamique d'un trou de verre, objet, ou plutôt, on va dire, tunnel hypothétique prédit par la relativité générale d'Einstein, qui constituerait un raccourci à travers l'espace-temps. L'expérience n'a été possible à réaliser que dans une piscine, en associant deux zones et en modifiant les vitesses d'écoulement au-dessus d'un obstacle qui était situé dans un canal hydraulique.